France Inter, le 18-20.
1000 milliards d'euros, voilà le montant du manque à gagner chaque année pour les pays de l'Union européenne. Montant de l'évitement fiscal, qu'il s'agisse du résultat de la fraude et de l'évasion fiscale ou même de l'optimisation fiscale qui grève le budget des États. En France, le Conseil économique, social et environnemental parle de 60 à 80 milliards de manque à gagner chaque année. De quoi améliorer le fonctionnement des services publics et le quotidien de tout un chacun. De quoi aussi alléger l'impôt que supportent les autres contribuables. Bref, la question de la justice fiscale est l'une de celles qui devraient nous occuper en ces temps de campagne présidentielle. Alors, comment rendre l'impôt plus juste? On en parle avec le sénateur communiste Éric Bocquet, ancien rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, co-auteur avec son frère Alain de Sans domicile fisc, publié au Cherche Midi. Avec nous également l'avocat fiscaliste Michel Talley, ancien directeur de la législation fiscale à Bercy, membre de la commission fiscale du MEDEF, dont le dernier ouvrage s'intitule « Les coulisses de la politique fiscale », c'est aux presses universitaires de France. Et bien sûr, Suzanne Georges, la présidente d'honneur d'Attaque France, qui est restée à nos côtés. Pour les interpeller dans ce téléphone sonne, vous avez le net avec le Maudit Estelson. Vous avez aussi le standard 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et nous allons justement au standard de France Inter retrouver Gérard qui nous appelle de l'Ain. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir.
Pour quelle raison avez-vous souhaité intervenir ?
Eh bien d'abord parce que le sujet de l'impôt, c'est la base de notre société, de son équilibre. Donc selon moi, malgré tout, l'impôt est vécu comme une punition. C'est toujours quelque chose qu'il faut éviter de payer. Si l'on regarde dans la presse, les magazines, au moment de des déclarations fiscales, même les conseillers fiscaux d'ailleurs, les médias également donnent des solutions pour réduire ou même pour éviter l'impôt.
Alors que vous, quand vous payez votre impôt, vous avez l'impression de faire un acte citoyen?
Ah ben bien sûr, oui, mais ça me paraît pas un problème. Enfin, si, alors c'est justement pour ça. Ce qui me semble fondamental, c'est que cette contribution par chacun au fonctionnement collectif, il faut arriver à ce que, dans les esprits, elle soit située autrement. N'est-il pas urgent de rendre l'impôt justement plus juste pour que chacun le paye, sans chercher à se dérober à l'impôt, ni même pas les politiques?
Eh ben, je crois que c'est une excellente introduction. Merci beaucoup, Gérard, pour votre appel. Qui souhaite réagir? Éric Bocquet, peut-être?
Oui, un mot là-dessus. Je crois que le débat, effectivement, est bien centré, le décor bien planté. Votre auditeur, Gérard, évoque la notion de consentement à l'impôt, sans lequel il n'y a pas de société, il n'y a pas de république, il n'y a pas de justice. Effectivement, payer l'impôt, c'est faire partie de la société, c'est contribuer à son fonctionnement et à son développement. Et donc, après, il faut que l'impôt, évidemment, soit progressif, beaucoup plus qu'il ne l'est, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui, aussi bien du côté entreprise que du côté des particuliers. Il faut aussi que cet impôt soit payé par tous, que personne n'y échappe. Si on n'a pas ces deux conditions réunies, effectivement, le consentement à l'impôt se dégrade et en prend un coup.
Michel Talley, le principe du consentement à l'impôt, c'est un très vieux principe qui figure même dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc, c'est un principe constitutionnel?
Oui, alors effectivement, les parlements modernes sont nés de la nécessité de faire consentir le citoyen à l'impôt. Donc effectivement, c'est à la base de notre système juridique et constitutionnel. Alors simplement, il faut bien voir qu'au départ, l'impôt, ça sert à financer les dépenses publiques. Donc déjà, le consentement à l'impôt est déjà bien meilleur si ça finance des dépenses qui sont elles-mêmes jugées comme utiles, etc. Donc je pense qu'il y a un lien entre les deux. Et puis surtout, on a greffé sur cette première fonction de l'impôt de financer, on a greffé deux autres choses qui n'ont plus rien à voir. La première, c'est éventuellement de redistribuer les revenus.
On se sert de l'impôt pour d'autres objectifs.
Et puis l'autre, c'est qu'on se sert de l'impôt pour inciter ou pour interdire. L'impôt punitif, la niche incitative. Alors du coup, les gens ont tous l'impression que eux paient plus qu'ils ne devraient et que les autres ne paient pas ce qu'ils devraient. Et c'est là que le problème naît de la complexité qui fait que les gens ne comprennent plus. Et du coup, ils sont persuadés que c'est eux qui payent trop et les autres pas assez.
Voilà, ça c'est globalement le sentiment dominant. Suzanne Georges.
Oui, j'ai lu des études aussi où les gens qui ne paient pas l'impôt ou qui évitent disent que ça n'est pas grave moralement parce que c'est dépensé pour choses frivoles ou autres et que pourquoi ils seraient les poires de la situation alors que ils pourraient échapper aussi comme ces gens. Mais ce qui manque à cet argument, c'est que quand on vit en démocratie, on a accepté un contrat social. On peut essayer de faire dépenser l'État pour des choses que l'on approuve. Moi, j'approuve pas spécialement que le gouvernement ait donné 40 milliards aux entreprises du CAC 40. Mais il y a d'autres personnes qui trouvent probablement que payer pour des refuges pour les femmes battues, c'est pas leur affaire. Chacun voudrait changer l'impôt et sa destination selon son propre situation, mais on ne peut pas échapper et on devrait
et pourtant,
accepter.
Il y en a qui échappent à l'impôt.
Surtout les très grandes entreprises et puis le 0,1%. C'est même pas le 1%, c'est le 0,1%.
Alors justement, il y a Eric qui nous appelle du Var et qui nous pose une question à ce sujet. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, je voulais savoir quels sont les pays européens qui sont les plus efficaces, qui sont en pointe. Parce qu'on sait bien que la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, c'est un choix politique. Et j'aurais voulu savoir s'il y a des pays en Europe qui ont fait le choix de lutter efficacement.
Eh bien, c'est une bonne question. Merci, Eric. On la pose à un autre Eric, Eric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Et puis après, on va s'arrêter sur la notion quand même d'évasion fiscale très précisément. Mais d'abord, peut-être un mot des pays qui luttent le mieux contre l'évasion fiscale.
J'aurais du mal à établir un classement. J'ai eu l'occasion dans mes travaux de me rendre au Royaume-Uni où j'ai senti là une certaine volonté, un certain pragmatisme à récupérer l'argent qui échappait au fisc britannique. J'ai pas d'éléments sur l'ensemble des pays européens, mais je sais que l'ensemble des États aujourd'hui sont confrontés à cette problématique, parce que pour les peuples, cette situation est tout à fait insupportable. On nous impose l'austérité au nom de la dette. Or, si on maîtrisait l'évasion fiscale, il n'y aurait plus de dette. On changerait complètement la donne.
Michel Talley, avocat fiscaliste. Est-ce qu'on s'arrête peut-être un instant d'abord sur la définition de quoi on parle? Parce qu'il y a l'évasion fiscale, la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, l'évitement en général. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces notions?
Bon, alors, la fraude, c'est clairement celui qui doit déclarer quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus, et il ne le fait pas. Donc, typiquement, c'est la personne physique, je ne cite aucun nom, qui a un compte à l'étranger en profitant du secret bancaire. Les entreprises, elles, sont assez rarement concernées par ça, puisque le seul schéma où elles sont concernées par ça, c'est lorsque elles ont une fausse comptabilité pour créer une caisse noire. Et en général, à ce moment-là, c'est pas pour éviter l'impôt, parce qu'elles ont plein d'autres façons de le faire. C'est parce qu'elles veulent faire quelque chose dans un pays sans que ça se voit, rémunérer des expatriés, payer des pots de vin, de la corruption. Bon. Donc là, on est vraiment dans la fraude, le délit pénal. Pour tout le reste, il s'agit de profiter de l'ambiguïté des textes, voire de la contradiction entre un texte français et un texte allemand pour ne payer nulle part. Bon. Alors là, c'est effectivement ce qu'on appelle de l'évasion, c'est complètement différent. Et puis après, il y a un dernier problème qui est, quand je fais un profit sur le monde entier, comment je répartis ce profit entre les différents pays, ça c'est le sujet le plus moderne, celui sur les acteurs du numérique, etc. Alors, pour savoir qui fait le plus, il faut bien distinguer la volonté politique de lutter contre la fraude et les moyens. Il faut quand même pas oublier qu'en France, on n'a pas de secret bancaire du tout. On a une communication automatique de tout ce qui se passe sur votre compte en banque, de tout ce qui se passe sur vos comptes d'assurance, les paiements avec les commerçants, dès qu'on dépasse quelques centaines d'euros, il faut faire de façon dématérialisée ou par chèque. Ce qui fait que la France est quand même un pays où les moyens de lutte contre la fraude sont parmi les plus performants. Vous avez quelques pays qui ont ça, les États-Unis, vous avez effectivement, mais vous avez beaucoup de pays, justement la Grande-Bretagne, où en fait, si vous passez par les îles anglo-normandes, vous faites ce que vous voulez. Alors ils peuvent toujours gesticuler en disant qu'ils luttent contre la fraude, vous faites ce que vous voulez.
Enfin, pour en revenir une seconde à ce qu'on a pu donner comme définition, fraude, évitement, évasion fiscale et optimisation fiscale, globalement, ce sont quand même les plus grosses entreprises ou les contribuables les mieux organisés et les plus riches qui arrivent à échapper à l'impôt grâce à des montages les plus astucieux possibles et en profitant de ce que les différents pays ont peut-être des législations différentes.
Alors, il faut bien voir que la grosse différence, c'est que l'optimisation des grandes entreprises, elle peut se mesurer. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, on optimise l'impôt, mais les recettes, elles sont bien comptabilisées. Donc, il suffit de comparer le bénéfice comptable consolidé tel qu'il est déclaré et le total des bénéfices fiscaux pour voir s'il y a une différence. Dans les entreprises beaucoup plus petites, quelquefois, il y a de la fraude pure et simple comme pour les personnes physiques. C'est-à-dire que je ne déclare pas toutes mes recettes ou que je passe en dépense des choses qui auraient dû rester dans mon budget personnel. Et donc ça ne se mesure pas. Et donc, il y a un biais dans tous les rapports, y compris celui du Conseil des impôts de 2009 là-dessus, qui fait que le taux d'évitement fiscal des grandes entreprises est maximisé méthodologiquement par rapport à ce qui se passe dans les autres. Donc là, effectivement, c'est un peu plus compliqué.
Suzanne Georges, présidente d'honneur d'Attaque France, je rappelle.
Merci. Je suis très étonnée que Monsieur Bocquet puisse citer la Grande-Bretagne comme sorte de pays qui fait le mieux.
C'est le seul pays que j'ai eu l'occasion de visiter, c'est à ce titre-là que je la cite.
D'accord, voilà, parce que la cité de Londres est au centre de toutes sortes de combines, et les îles britanniques qui sont des petits bouts d'empire qui restent, sont parmi les paradis fiscaux les plus performants. Alors, je crois qu'on peut classer l'Angleterre à part, justement, comme les États-Unis, d'ailleurs. Mais il est parfaitement possible, je ne sais pas comment Maître Tally puisse dire que les grandes entreprises sont un peu vierges dans cette histoire, parce que il est parfaitement possible que si je suis le PDG, je puisse payer, enfin, je puisse faire mes profits aux îles Cayman, par exemple, où les habitants sont 55 000, c'est un peu étonnant, où je pourrais comptabiliser ma recherche et développement ou ma publicité aux îles Bermudes, et puis échapper parce que j'aurai des coûts dans ces pays-là. Et puis, il y a les prix de transfert, où les grandes entreprises sont passées maîtres, où on a différentes succursales ici et là. C'est assez compliqué et technique, mais elles arrivent à faire en sorte que les profits sont réduits à zéro par un pays où il n'y a aucune fiscalité. Enfin, c'est vraiment une science. Et je me demande si vous n'avez pas à traiter ces cas-là, parce que je ne sais pas qui met 21 à 32 milliards, non, pardon, trilliards dans les paradis fiscaux, si ce n'est pas les très grandes entreprises et les gens très riches. Personne ne sait exactement le montant.
Alors moi j'ai aussi une question sur les moyens de l'État pour lutter contre la fraude, parce que les très grandes entreprises sont très bien organisées. Éric Bouquet, vous le dites ça dans votre livre, les fonctionnaires contrôleurs des impôts en France, ils arrivent dans des entreprises où il y a une armée d'avocats fiscalistes. C'est parfois pas évident pour eux, vu en plus les effectifs.
Absolument, le combat est très inégal. Effectivement, le contrôleur du fisc qui a en face de lui une armée d'avocats tous spécialisés, il y a un rapport de force défavorable effectivement, et il est établi aujourd'hui, Monsieur Tally faisait référence à cette étude du Conseil des prélèvements obligatoires en 2009, où on concluait que le niveau d'impôt des entreprises, des grandes entreprises du CAC 40 était à 7-8%, quand l'impôt société en France était à l'époque à 33%. Donc nos PME, nos artisans, nos petits commerçants, eux, ne peuvent pas se soustraire à l'impôt, alors que tous les multinationales, les banques et les grands groupes internationaux ont tous les moyens effectivement de l'éviter avec beaucoup d'ingénierie.
C'est vrai, Michel Tally.
Alors, d'abord, effectivement, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'il y avait des profondes erreurs méthodologiques dans cette étude, mais j'ai pas. Il me faudrait une heure et demie pour expliquer pourquoi. Depuis, le ministère des Finances a reconnu qu'effectivement, il y avait la différence n'était pas du tout celle qui apparaissait dans ce rapport, et surtout. Depuis 2011, je dis bien 2011 et pas 2012, depuis 2011, les gouvernements successifs ont fermé toutes les méthodes utilisées pour baisser l'imposition, notamment celles qui reposent sur les intérêts et sur les traitements de déficit, au point que maintenant, effectivement, les mêmes conseils prélèvements obligatoires notamment, reconnaissent qu'il n'y a plus de trous dans l'assiette française différents. Il n'y a pas plus de trous dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés en France qu'ailleurs. Le problème qui est souligné dans l'histoire internationale avec les prix de transfert, etc., c'est pas une question de secret bancaire, parce que on sait que les entreprises multinationales ont des comptes. Ce qu'on sait pas, c'est ce qu'ils font exactement dans ces paradis fiscaux. Et là-dessus, on a fait des progrès considérables grâce aux travaux de l'OCDE pour savoir ce qui s'y passe. Et en revanche, pour c'est ce que j'avais dit, les prix de transfert, c'est la question de comment on se partage. Si on est d'accord pour dire qu'une entreprise a gagné, mettons, 100 milliards de dollars sur la Terre entière, comment on se partage ces 100 milliards ?
Comment on harmonise ?
Et la technique des prix de transfert qui, effectivement, a été élaborée il y a plus de 50 ans, elle ne fonctionne plus. Et c'est ça le sujet. Et donc, les paradis fiscaux, c'est un problème, mais il y a un problème de partage du profit entre les États, et c'est à ça que l'OCDE va devoir s'attaquer.
On repart au standard. Hélène nous appelle de Villeurbanne. Je crois qu'elle a une question pour vous, Suzanne Georges. Oui. Bonsoir Hélène, on vous écoute.
Bonsoir, et bonsoir particulièrement à Suzanne Georges, que j'ai déjà plusieurs fois rencontrée. Voilà, on parle du pouvoir des gouvernements, etc. Il faut parler aussi du pouvoir des citoyens. Il y a un groupe de citoyens, surtout autour de ATTAC et AMV COP21, qui a pris les choses un petit peu en main et qui s'est attaqué à BNP Paribas, qui est la première banque, enfin la banque la plus efficace pour organiser l'évasion fiscale. Alors on est allé les titiller un petit peu dans leurs agences et leur faucher des chaises. J'aimerais que Suzanne Georges raconte, parce que en tant que receleuse de chaises, elle connaît très bien l'histoire.
Merci beaucoup pour cet appel, Hélène. Suzanne Georges.
Je vous remercie beaucoup.
Vous êtes faucheuse de chaises, alors.
Je te remercie, Hélène, parce que tu es camarade. Je crois que toi, tu le raconterais beaucoup mieux que moi, parce que moi, j'ai pas fauché des chaises. Je me suis simplement assise sur une chaise dans la rue
Alors, on rappelle que les chaises ont été fauchées dans les agences fauchées, et qu'elles ont été mises devant le tribunal le jour de l'audience.
Oui, on les fauche, mais on promet de les rendre le jour où les paradis fiscaux dans les îles Cayman seront fermés par le BNP Paribas.
Et on a suivi ces procès, on en a rendu compte effectivement sur l'antenne de France
Inter. Exactement, et John Paley, qui a été jugé, a été totalement exonéré, blanchi, etc. Et je crois que le tribunal a un peu ri du BNP, qui était quand même un peu bête, il faut bien dire, de demander 75 000 euros à un militant qui avait participé à l'un des fauchages. Mais nous avons peut-être d'autres idées que nous allons mettre en œuvre dans l'avenir, parce qu'on ne va pas abandonner cette question-là.
Parce que c'est vrai que se pose, Éric Bocquet, la question du rôle des citoyens face à toute cette situation.
Absolument, c'est presque la conclusion de notre bouquin, ça. L'appel citoyen, le mot employé est au cœur de l'affaire. Ce n'est pas qu'un sujet technique de fiscaliste et d'élus. On est tous concernés, on est tous contribuables, on est tous titulaires de comptes en banque, on est tous consommateurs. On a des comptes à demander à nos banques qui ont par dizaines des filiales dans les paradis fiscaux. Le CCFD sort régulièrement un rapport sur cette situation. Ça n'évolue guère. Elles sont toujours très présentes dans les paradis fiscaux, les banques françaises, les quatre grandes banques françaises. La Société Générale, par exemple, c'était dans les échos du 1er juillet 2014, a une filiale aux Bermudes qui réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros avec zéro salarié. Il y a là un vrai sujet pour les services de Bercy.
Voilà, alors on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission du consentement à l'impôt, du principe général de l'impôt, de l'évasion fiscale, de la fraude, etc. On va passer maintenant à la meilleure façon de rendre l'impôt plus juste et on va rentrer donc dans le détail de ce qu'est l'impôt aujourd'hui. Marc nous appelle de Nantes. Bonsoir Marc.
Bonsoir à tous, je vous remercie de prendre ma question. Ma question est la suivante. Compte tenu du nombre incommensurable de niches fiscales qui existent et qui, à ma connaissance, n'ont pas réellement prouvé leur efficacité du point de vue économique, est-ce qu'il ne serait pas temps de les réduire, puisque de toute façon, elles sont utilisées par des personnes qui ont recours, en plus de ça, à des fiscalistes et qui, donc, ont déjà les moyens
de se renseigner, de s'informer et d'en profiter.
Voilà.
Merci beaucoup Marc pour cette question qui veut répondre sur les niches, de multiples niches, Michel Tallier en France.
Oui, alors je veux bien effectivement, parce que il faut bien voir une chose, c'est que les niches fiscales, si on les supprime, ceux qui vont protester, c'est pas les contribuables.
C'est le chien qui est dans la niche.
C'est les gens qui profitent de la niche parce que au lieu de vous vendre un produit, ils vous vendent une niche fiscale, c'est beaucoup plus facile. Et donc chaque fois qu'on a voulu supprimer une niche fiscale, on n'y est jamais arrivé. Alors, il faut bien voir aussi que les niches fiscales, c'est uniquement un problème de répartition de l'impôt plus que de rendement de l'impôt, parce que quand on dit par exemple il y a 100 milliards de niches fiscales, on met tout dedans, on met certains taux réduits de TVA, on met le quotient familial, on met tout. On ne pourrait pas les supprimer et augmenter les impôts de 100 milliards en France. On pourrait supprimer les niches et réduire les taux pour que le rendement soit le même. Mais on a déjà 45% de la richesse nationale qui passe en impôt. On pourrait pas monter à 50 ou à 55. Donc, quand on dit, par exemple, il y a 60 milliards d'évasion fiscale et de fraude fiscale, il faudrait savoir comment ça a été mesuré. Mais même si on mettait fin à tout ça, on pourrait pas augmenter les recettes fiscales dans ce pays de 60 milliards. Il y aurait un problème. Et moi, je dis souvent que les niches fiscales ne sont pas une façon de faire baisser le rendement de l'impôt. C'est la façon dont on a réussi à augmenter les taux jusqu'à des niveaux très déraisonnables, parce que chaque fois que quelqu'un crie trop fort, on lui fait une niche. Et donc, on fait un traitement symptomatique de la douleur fiscale pour maintenir la pression la plus élevée possible.
Et puis parce que l'État se sert aussi de certaines niches pour une politique, hein, en matière immobilière. C'est bien le cas, sûr. Par exemple, Éric Bocquet.
Mais je crois que le vrai débat, c'est la grande réforme fiscale, tant de fois annoncée et jamais réalisée. Aujourd'hui, dans ce pays, il existe 5 tranches d'impôts, la plus élevée étant 45%.
On parle de l'impôt sur le revenu.
Il y en avait 14 il y a une dizaine d'années. Et il n'est pas assez progressif, notre impôt, c'est évident. L'évasion fiscale, 80 milliards d'euros chaque année. Il faut quand même mettre ça en rapport direct avec le déficit constaté en 2016 d'environ 70 milliards. On est exactement dans la fourchette 60-80 milliards estimatifs du coût de l'évasion fiscale au budget de la République. Il y a quand même un enjeu colossal là-dessus.
C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui veut revenir à un nouveau barème de 14 tranches au lieu de 5.
Ça fait partie du dispositif, effectivement.
Voilà.
Une plus grande progressivité.
Oui, Suzanne Jarre.
Moi, je ne peux pas en parler techniquement, mais il est quand même intéressant de savoir que dans les années 50 et 60 aux États-Unis, un congrès républicain et un président républicain, qui était M. Eisenhower, avaient fait fixer les tranches d'impôts et que la dernière tranche sur le revenu, c'était à 90%. Voilà. Alors, c'est le néolibéralisme qui a baissé tout cela et fait maintenant que nous sommes dans une course vers le fond.
Michel Talib, puis après on part au standard pour parler de la TVA.
Juste un petit mot pour dire quand même que à côté de l'impôt sur revenu, il y a un deuxième impôt sur revenu en France qui s'appelle la CSG. Que ce deuxième impôt, il est à 8% pour les revenus du travail, il est à 15,5% pour le revenu capital. Et que depuis 2012, tous les revenus capital ont été intégrés dans le barème, ce qui fait que c'est pas 45, c'est 64. Alors c'est vrai qu'on a connu historiquement des taux beaucoup plus élevés, notamment en Grande-Bretagne avec les travaillistes où c'était monté effectivement à 90. Effectivement aux États-Unis, il y a eu des taux très élevés. Simplement, il n'y a pas de taux dans l'absolu de bons taux. Il y a ce qui est pratiqué et considéré comme toléré par le corps social à un moment donné. Alors à partir du moment où le mouvement de baisse a été général dans le monde entier, maintenant on considère qu'au-delà de 50, les gens ils disent 50-50, j'en garde 50, l'État en prend 50, on va pas au-delà. Et donc 50 avec la CSG, avec 45 on est déjà au-delà. Donc pour faire plus, il faudrait remettre des murs pour empêcher les gens de sortir, quoi.
On part au standard de France Inter comme promis. Antoine nous appelle du Tarn. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Je crois que vous souhaitez nous parler, vous, de la TVA.
Oui, la TVA est un impôt qui a été généralisé par Giscard d'Estaing quand il était ministre des Finances et qui s'applique à tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. Et qui est un impôt parfaitement injuste puisqu'il n'est pas du tout progressif. Et quel que soit le montant de vos revenus, ben vous payez le même taux d'imposition, la TVA représentant quand même une très très grosse part des rentrées d'argent de l'État. Donc, effectivement, en supprimant les niches fiscales et en rendant un impôt sur revenu beaucoup plus progressif, on arriverait sans doute à avoir un étalement beaucoup plus juste de l'impôt, une répartition beaucoup plus juste de l'impôt par rapport à tous les citoyens, au même niveau que les mutuelles qui complètent la sécurité sociale, ce qui ne sont pas basées sur les revenus et qui font que les gens qui ont les revenus les plus faibles peuvent pas se les offrir.
Merci beaucoup Antoine pour cette remarque. La TVA, on précise quand même que c'est l'impôt qui rapporte le plus, me semble-t-il, 150 milliards d'euros par an.
C'est effectivement le problème, c'est que la TVA c'est 150 milliards. Donc dire qu'elle est injuste, qu'est-ce qu'on dit après? Qu'on la supprime et qu'on met les 150 milliards sur autre chose. L'impôt sur revenu c'est 75 milliards, donc on double l'impôt sur revenu. La CSG c'est 100 milliards. Donc si on veut 150, il faut la multiplier par 2,5. Comment on fait? Et le problème c'est que on peut pas, quand on prélève 45% de la richesse, les prélever tous ces 45% sur un seul impôt, qui serait l'impôt sur revenu, qui en plus serait progressif. Donc il faudrait qu'il soit en moyenne de 45, il démarrerait à 5, il finirait à combien? À 115. Donc on voit bien que tous les grands pays ont un impôt sur la consommation qui a aussi des avantages, parce que ceux qui fraudent, ils consomment et ils payent de la TVA. Les importations payent de la TVA. Les exportations n'en payent pas. Donc la TVA n'est pas tout à fait aussi dégressive par rapport au revenu qu'on le dit, parce que si vous calculez sur tout un cycle de vie, vous payez de la TVA toujours à un moment ou un autre. C'est-à-dire, celui qui épargne, il ne paie pas de TVA, mais quand il achète un immeuble neuf, il paie de la TVA. Quand il achète une voiture, il paie de la TVA. Donc, la TVA, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Le problème, c'est, est-ce qu'il faut en faire un petit peu plus, un petit peu moins? Mais on ne peut pas s'en passer.
Éric Bocquet.
Non, mais effectivement, la TVA, c'est 50% des recettes du budget de l'État dont je parlais tout à l'heure, de 300 milliards. Un impôt auquel personne n'échappe, quel que soit votre niveau de consommation, votre niveau de revenu. Mais on oublie un peu vite les 80 milliards d'évasion fiscale qu'on ne va pas juguler en 6 mois. On ne va pas se mentir. Il y a un travail peut-être d'une génération. Mais si on ne s'attaque pas à ça, effectivement, on va tout déstabiliser. Et quand même, j'ai en tête les 56 milliards de dividendes distribués au titre de 2016. On est revenu au niveau d'avant la crise de 2007. Et on est en France les premiers distributeurs de dividendes en Europe. Il y a un vrai sujet là. On crée de la richesse dans ce pays. Il faut la faire payer un peu.
Je crois qu'on est d'accord sur ce point. Hein. La première priorité, c'est de lutter contre l'évasion fiscale.
Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut revenir aux entreprises, les très grandes entreprises à ce moment-là. Pourquoi un inspecteur des impôts à attaque nous dit les succursales des plus grandes paient quelque chose, mais elles paient ce qu'elles veulent? Pourquoi nous avons des Panama Papers, pourquoi nous avons des Luxembourg, des fuites du Luxembourg. On sait que les succursales Amazon, Google, etc. ne paient pas ce qu'elles doivent à la France. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas peut-être détaxer quelque chose si on ne taxe pas ailleurs, mais pourquoi on ne vise pas ces cibles? Pourquoi on ne taxe pas ce qui fait mal à la collectivité? On commence une sorte d'épidémie d'obésité. Pourquoi on ne taxe pas le sucre? Pourquoi on ne taxe pas les sodas beaucoup plus? On commence à empoisonner le pays, on le fait avec des cigarettes, on pourrait le faire encore plus. Pourquoi on ne fait pas ce qui coûte à la collectivité?
Michel Tali, moi j'ai une question qui arrive par mail, une question de Bruno, je crois que ça doit peut-être s'adresser à vous, enfin je sais pas, il y a marqué « Je souhaiterais connaître en quoi consiste le métier d'avocat fiscaliste, au-delà, quels sont les métiers qui participent à l'évasion fiscale? Est-ce que les avocats fiscalistes participent à l'évasion fiscale ?»
L'avocat fiscaliste, comme l'avocat de droit du travail, il est là pour dire le droit et éventuellement accompagner son client en justice si les choses tournent mal après. Mais il dit le droit. Donc un avocat en droit du travail, il dit à l'employeur, vous avez le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. L'avocat fiscaliste, il dit, vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça. Alors après, il y en a qui aident plus ou moins, d'abord dans les clients, il y a des gens qui souhaitent rester au milieu du chemin, et il y en a qui ont envie de se mettre borderline, comme on dit. Alors là, effectivement, on les accompagne, on les accompagne pas. C'est une question d'attitude individuelle. Et puis, effectivement, après, y a ceux qui vont vraiment très très loin, et puis il y a ceux qui aident carrément les gens à aller de l'autre côté et à les défendre en justice après s'ils y sont pas allés. Donc, si vous voulez, la profession d'avocat fiscaliste, elle est comme toutes les professions. C'est un métier qui concourt à l'intérêt général puisqu'il réduit l'incertitude et qu'il n'y a pas de raison qu'une entreprise paie plus d'impôts qu'elle ne devrait. Alors après, effectivement, il y a chacun a son attitude de citoyen face aux gens qui veulent être borderline, c'est tout.
Voilà, précision apportée. Nous repartons au standard. Christian nous appelle du Havre. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir à toutes.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Merci. Je voulais particulièrement saluer Suzanne Georges. Je suis moi-même militant d'Attaque. Voilà.
Vous avez tout votre fan club, Suzanne Georges, ce soir.
Et pourtant, je n'ai prévenu personne.
Non, ma question portait sur une question un peu plus franco-française par rapport à l'impôt sur le revenu. On a actuellement un double système, enfin peut-être même un triple ou un quadruple avec la TVA, etc., qui est l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui est la CSG. Voilà. Un économiste, Thomas Piketty, que vous connaissez sans doute tous et toutes, préconise de fusionner les deux systèmes
pour en élargir l'assiette. Et c'est pas le seul.
D'abord élargir l'assiette, bien sûr, et surtout dans l'optique de rendre la CSG non plus proportionnelle, mais progressive. C'est-à-dire plus redistributive. Alors, je m'excuse, là, c'est un petit peu technique, mais...
Mais on a des techniciens qui vont vous répondre sans aucun souci, Christian.
D'accord.
Un grand merci. L'heure passe, c'est pour ça que je vous arrête, mais effectivement, c'est une proposition qui est reprise par Benoît Hamon, par Jean-Luc Mélenchon, fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG pour en élargir l'assiette. Qui souhaite réagir?
Je suis très réservé sur l'idée de fusionner les deux. Elles n'ont pas le même objet, elles n'ont pas le même but, et il ne faut pas mélanger le financement de la sécurité sociale et le reste du budget.
Michel Tally.
Alors, je crois que simplement, il faut se méfier des abstractions. C'est-à-dire que fusionner deux impôts, ce n'est pas une politique, c'est un outil. Donc c'est pour quoi faire. Je me souviens d'une campagne présidentielle où à la fois la droite et la gauche voulaient tous les deux fusionner. Manifestement, c'était pas pour les mêmes raisons. Les uns, c'était pour rendre l'impôt progressif moins progressif et l'autre pour rendre l'impôt proportionnel progressif. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Et alors après, fusionner deux impôts dont un va à la sécurité sociale est par individu, l'autre va à l'État et par couple, un est très progressif, l'autre n'est pas, un est plein de trous. Et on se dit, si je le fusionne avec l'autre, je vais boucher les trous, à moins que je creuse des trous dans le premier. Donc c'est chose d'hyper compliqué. Si on voulait le faire, il faudrait 20 ou 30 ans, et il faudrait surtout qu'on sache pourquoi on veut le faire.
Voilà, merci beaucoup. On repart au standard pour un dernier appel. C'est Ève qui nous appelle de Paris. Bonsoir Ève.
Oui, bonsoir France Inter, et merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie.
Je vais être brève, je vais jouer Candide ce soir. Je suis une citoyenne française d'origine scandinave. Et je me demande pourquoi nous ne calquons pas les modèles scandinaves, qui sont quand même assez vertueux. Et la Scandinavie dans son ensemble a un système de redistribution de l'impôt qui fait que les citoyens, sans être heureux de payer des impôts, n'en sont pas du tout mécontents. Au contraire, ils sont satisfaits de l'utilisation qui est faite des deniers qu'ils donnent à l'État.
Heureux pays, scandinave.
Ils ont des syndicats très puissants.
Merci beaucoup, Ève.
Et voilà, effectivement, ils ont des syndicats très puissants. Mais comment se fait-il qu'en France, il y ait une redistribution si inéquitable, si injuste, je dirais, que les Français font un sport national de l'évasion fiscale et freinent des quatre fers pour aller déposer leur chèque dans la boîte des impôts. Ils attendent minuit le dernier jour. Il faut quand même s'interroger là-dessus.
Merci. Merci beaucoup, Ève.
Changer les mentalités.
Un grand merci, Ève, pour cet appel. Effectivement, la mentalité française, c'est un petit peu pas vu, pas pris. Je paye pas. Éric Bocquet.
Je suis un peu réservé là-dessus. Vous savez, si encore une fois, si on avait un système juste qui donne vraiment une transparence absolue, enfin, je pense pas qu'il y ait un problème de mentalité et de culture. Tout le monde comprend l'intérêt de payer l'impôt parce qu'en retour, on a des services publics, l'accès à la santé, l'éducation. Ça n'est pas rien. Donc, si en retour, on a ça, effectivement, moi, je suis pas gêné du tout de payer pour avoir cela.
Michel Tally.
Je crois que effectivement, on a eu pendant longtemps un problème culturel face à la fraude fiscale. Moi, j'étais frappé de voir il y a 30 ans qu'aux États-Unis, vous pouviez pas dans un cocktail dire je viens de frauder, les gens vous tourneraient le dos. En France, dans un cocktail, vous disiez ça, l'artisan qui vous connaît pas, qui vous dit ça sera 100, mais si vous me le faites en liquide, ça sera 70. Bon, et ça existe encore et on le sait tous. Les salariés, s'ils fraudent pas, c'est parce qu'ils ont aucune chance d'échapper grâce à notre système de déclaration par l'employeur. Je suis sûr que s'ils étaient sûrs qu'on puisse pas recouper combien ils touchent de salaire, ils feraient comme tout le monde. Donc, on a un problème de mentalité, mais pas que sur ça. Bon, je veux dire, les poubelles scandinaves et les rues scandinaves, ça ressemble pas à une poubelle et une rue française. Bon, voilà. Donc, je crois quand même qu'on a un problème de société et que peut-être que les Français, ben, on a le système fiscal qu'on mérite et que si on veut que le système fiscal change, il faut que nous, on change. Et les citoyens, ils peuvent jouer là-dessus aussi et pas uniquement bon, faucher des chaises, c'est bien, mais arriver à obtenir que les Français changent d'attitude sur tout simplement le respect de la norme. Hein, le respect de la norme. Quand on voit que privatiser des radars, c'est une honte, une insulte, il s'agit quand même de prendre des gens qui respectent pas les réglementations. Donc je vois pas où est le problème.
Apple, Starbucks et Google sont pas des groupes français. Et ça fraude allègrement.
Oui, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent des fraudeurs dans le métro, par exemple, et qui les honnissent et qui en disent du mal. Moi, je pense que si on pouvait s'unir pour être beaucoup plus conscient des très grandes fraudeurs, ça serait plus efficace et ça résoudrait le problème de trouver d'autres lieux et de combiner d'autres impôts et que ça serait beaucoup plus citoyen. C'est pour ça que je pense que nous avons un problème peut-être de solidarité parce que ces très grandes fraudeurs, leurs entreprises bénéficient quand même de la police, des pompiers et de tous les services, publics.
Moi, j'ai une question par rapport à... Il se trouve que Ève nous a dit qu'elle était à moitié scandinave, que l'impôt, la retenue à la source, nous vient visiblement des pays scandinaves. Petite question, puisqu'on est en période électorale, certains candidats ont dit que la retenue à la source, ils reviendraient dessus s'ils étaient élus. Est-ce que c'est possible, Michel Tali?
Ah, c'est tout à fait possible, effectivement. Le Parlement peut très bien, en juillet, décider de faire marche arrière là-dessus. Bon, le calendrier est très engagé, donc il faut faire un peu attention à ça, mais c'est tout à fait possible. Et effectivement, là aussi, la rotation, pourquoi faire? Parce que compte tenu du seul but affiché, qui est de permettre à un contribuable de réduire son impôt tout de suite quand son revenu baisse, il y a d'autres façons de le faire, qui sont plus simples, voire plus efficaces, et qu'on se demande quelle est l'autre raison pour laquelle on veut faire la retenue à la source.
Voilà. Est-ce que c'est une façon de lutter contre la fraude? Non.
Non. Non, parce que ce n'est pas revendiqué par le gouvernement, qui a déjà un taux de recouvrement de 97% de l'impôt sur revenu, et il dit lui-même dans ses rapports qu'il ne cherche pas à l'améliorer. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'adaptation à l'évolution des revenus. Et on peut le faire autrement.
Eric Bocquet.
Oui, non, mais la collecte de l'impôt, ça revient, en la confiance d'entreprise, ça revient à privatiser la gestion de l'impôt. Il y a quelque chose qui ne me va pas très bien là-dedans.
Un dernier tour de table. L'heure tourne, c'est bientôt la fin de cette émission. Suzanne Georges, le mot de la fin, quel serait-il pour vous?
Le mot de la fin, moi j'étais une fois en Autriche pour une conférence sur la responsabilité sociale des entreprises. Et quand j'ai dit à mon tour, il me semble que la première responsabilité de l'entreprise, c'est de payer ses impôts, j'ai eu un regard horrifié de mon voisin et qui m'a expliqué après et au public, comme si j'étais une petite fille pas très futée, que lui, son métier était justement de faire en sorte que ses clients paient le moins possible. Alors, ça, c'est mon mot de la fin. Je crois que nous sommes aussi dans une situation de pouvoir, ce dont nous avons parlé tout à l'heure ensemble, et qu'il faut changer ce rapport de force.
Michel Tali, vous avez 15 secondes, vous, pour le mot de la fin. Ensuite, Eric Bocquet.
Je dirais simplement qu'il faut éviter les discussions théoriques qui pèsent tant dans ce pays, et il faut rechercher les finalités des impôts.
Deux mots d'espoir, harmonisation, transparence. Si on avait commencé l'Union européenne il y a 60 ans en fixant comme objectif d'harmoniser fiscalement et socialement, nous y serions et l'Europe aurait une autre allure aujourd'hui.
Et voilà, c'est terminé. Un grand merci à vous trois. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment Irène Menahem, Jérémy Younes à la réalisation. Ce soir, Eric Lenné, merci à tous les autres. Ils se reconnaîtront.